Teto Anten en arrive au RFI.
Le bruit courait depuis quelques jours au Sénégal, on l'avait évoqué sur RFI. Eh bien, c'est désormais officiel, la 15e Biennale de l'art africain contemporain qui devait s'ouvrir le 16 mai prochain à Dakar est finalement reportée au 7 novembre prochain. En cause, un manque de financement. RFI, 6h42 ici à Paris. Restez avec nous, on continue.
Afrique Matin sur RFI. Sébastien Duhamel.
Le prochain journal dans un peu plus de 13 minutes sur la radio du monde. Mais avant cela, 9 mois après le coup d'État au Niger, les États-Unis ont-ils perdu la partie sur place? Il est question d'un départ des militaires américains. On en parlera avec notre invité, le chercheur Jean-Hervé Jézéquel. 30 ans de démocratie en Afrique du Sud. La fin de notre série de reportages à Johannesburg, ce matin consacré à la Cour constitutionnelle, un pilier de cette démocratie. Les inquiétudes ensuite des producteurs malgaches de cacao. La demande est forte, les cours se portent bien, mais l'exportation est rendue compliquée. La dernière tempête a coupé les accès aux ports. Ce sera notre dossier Afrique Éco. Et puis la parlotte de Charlotte Ntamack, bien sûr, comme tous les vendredis. Mais on se met en jambes pour commencer. C'est le journal des sports. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Sébastien.
Du foot avec vous, on connaîtra ce vendredi les finalistes de la Ligue africaine des champions.
Et les Mamelodi Sundowns veulent en être. Les Sud-Africains éliminés dans le dernier carré la saison passée veulent leur revanche. Il va falloir pour cela renverser l'Espérance de Tunis, des Tunisois vainqueurs de la Manche aller 1-0 samedi dernier à domicile. Mais les Mamelodi Sundowns y croient et ils espèrent rééditer l'exploit de 2016, Claire Bargelès.
L'entraîneur des Sundowns, Roulani Mokoena, sait bien que la pression est du côté de son équipe, mais il est loin de perdre espoir.
On voit ça comme une deuxième mi-temps dans laquelle on s'engage avec un désavantage. Rien de plus, rien de moins. Avec de l'engagement et de l'enthousiasme, on sait que l'on peut renverser le résultat. Et le point positif, c'est que ça va se passer devant notre public.
En face, les quadruples champions de la Ligue seront guidés par leur coach portugais arrivé à la tête du club il y a à peine plus de 3 mois. Et Miguel Cardoso ne craint pas l'ambiance survoltée du stade Loftus de Pretoria.
C'est ça qui définit les grosses équipes, les capacités d'entrer dans un match où on va avoir un public passionné, enchanté, des personnes qui font la fête dans les matchs, ils veulent faire bien ici. Donc qu'on profite du moment et faire notre meilleur pour avoir plusieurs chances de faire un résultat qui nous donne la capacité d'entrer dans la finale de la compétition.
Et c'est un joueur bien connu du continent qui gardera la cage des jaunes et bleus, Ronwen Williams, révélé pour son talent dans l'arrêt de tir au but lors de la dernière CAN.
Personne n'a envie d'en arriver au tir au but. C'est très stressant pour le staff, pour l'entraîneur ou pour les joueurs. Mais si on doit en arriver là, on a confiance en nous.
Les Sundowns devront en tout cas trouver un moyen de percer la défense des Sang et Or qui n'ont pas encaissé un seul but sur leurs 7 derniers matchs en Ligue des Champions. Claire Bargelès, de retour de Pretoria, RFI.
Mamelodi Sundowns, Espérance de Tunis, coup d'envoi 18h, temps universel. L'autre demi-finale retour de cette Ligue des Champions opposera à 19h TU l'Al Ahly du Caire au TP Mazembe. À l'aller, les Corbeaux avaient concédé le nul à domicile 0-0.
Du tennis, Antoine, et honte Jabeur face à son plafond de verre de 2024.
La Tunisienne a passé un tour au Masters 1000 de Madrid en éliminant la Slovaque Shmieldova en 3-7, 6-4, 5-7, 6-3. Comme à Stuttgart, la 9e joueuse mondiale s'offre une victoire d'entrée. De quoi lui faire espérer pouvoir enchaîner enfin 2 matchs de suite, ce qu'elle n'a jamais réussi cette année.
C'est une victoire, oui. Je suis contente et prête à prendre la victoire comme moche ou belle, en fait. Donc voilà, c'est des mois un peu difficiles pour moi. Donc je suis contente comment je me bats sur le terrain, c'est sûr. Le niveau de jeu, ça va des hauts et des bas. Mais je suis vraiment contente parce que j'ai eu des séances d'entraînement assez dures et j'étais pas très en forme. Donc je savais pas à quoi m'attendre dans le match. J'espère vraiment continuer à jouer dans le meilleur niveau. Au milieu du deuxième set, j'ai beaucoup aimé comment j'ai joué. C'est juste un rythme à reprendre. Je pense que je sais tenir une raquette. C'est vraiment très dur parce que des moments, je voulais peut-être prendre un petit break. C'est juste une question de revenir sur le terrain et de vraiment y croire tout le temps.
Et au troisième tour, Jabeur affrontera la Canadienne Leila Fernandez.
Un mot enfin sur cette performance cette nuit en NBA.
Celle de Joel Embiid, le pivot des Sixers de Philadelphie, auteur de 50 points pour la victoire de Philadelphie, 125 à 114 sur les Knicks de New York.
Le journal des sports, Antoine Grenier sur RFI. 4h45 en temps universel, un coup d'œil sur l'actualité internationale et Israël qui a bombardé hier plusieurs secteurs de la bande de Gaza comme la ville de Rafah, là où Israël estime que le Hamas dispose de 4 bataillons et où l'armée israélienne se prépare à une opération terrestre. Il n'est pas trop tard pour que l'Ukraine l'emporte dans la guerre face à la Russie, à condition que les Occidentaux tiennent leur promesse de lui fournir davantage d'armes. Déclaration du chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Vendredi dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait justement exhorté l'OTAN à livrer le plus rapidement possible des armes à l'Ukraine qui ne peut plus attendre face à la pression russe, selon le président ukrainien. Le secrétaire d'État américain à Pékin, Anthony Blinken, espère que la Chine et les États-Unis feront des progrès. Son homologue Wang Yi a pour sa part souligné que les relations entre les deux puissances commencent à se stabiliser, mais que des éléments négatifs se développent entre Washington et Pékin. Et puis cette décision de justice à New York, une cour d'appel a annulé une condamnation à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle d'Harvey Weinstein, l'ex-producteur star d'Hollywood. Il aura donc droit à un nouveau procès. Au Niger, 9 mois aujourd'hui que le président Mohamed Bazoum a été renversé par les militaires. 9 mois que l'ancien président est détenu avec son épouse. Alors qu'à Niamey, la junte a, semble-t-il, pris un virage dans le choix de ses partenaires. Après le départ des Français, il est aujourd'hui question du départ des militaires américains. Départ évoqué d'ailleurs aujourd'hui encore par le général Ken Ekman, directeur de la stratégie de l'Africom, le commandement des États-Unis pour l'Afrique. Il a fait le déplacement au Niger pour en discuter. Alors les Américains ont-ils déjà perdu la partie au profit de la Russie? Eh bien ce n'est pas si simple, nous répond ce matin notre invité Jean-Hervé Jézéquel, chercheur à l'International Crisis Group, pour qui les Américains ont pris quelques précautions.
Les États-Unis n'ont soutenu au fond que du bout des lèvres l'action de la CEDEAO. Il était clair qu'ils ne croyaient pas non plus à la possibilité d'une intervention passée les premiers jours, en tout cas pas d'une intervention réussie. Et donc ils se sont engagés dans une approche accommodante à l'égard du CNSP, des nouvelles autorités, essayant voilà, de préserver des relations et puis de préserver aussi leur base. Au départ, ce n'était pas nécessairement un pari idiot, mais évident qu'il n'a pas fonctionné. Donc les États-Unis sont quand même rentrés en tension avec le CNSP, d'abord autour de son rapprochement avec des acteurs comme l'Iran et la Russie, et puis aussi du fait du refus du CNSP de fixer un calendrier de sortie de transition sous pression. Et donc cela a fini à conduire à l'impasse actuelle. Aussi, enfin également, je pense que voilà, il semblerait que le CNSP aussi restait très méfiant à l'encontre de certains de ses voisins de la sous-région et aussi de la France. Il soupçonne ces acteurs de vouloir soutenir des actions de déstabilisation. Et donc face à cette menace, réelle ou pas, le CNSP a plus confiance dans l'allié russe que dans l'allié américain. Pour autant, on ne peut pas dire que les États-Unis ont été chassés du pays. Ils maintiennent une présence, non militaire, mais ils maintiennent une présence à travers des programmes de développement et d'aide humanitaire. Ils ont toujours leur ambassadeur présent à Niamey. Ils réussissent à éviter une sorte de politique des blocs qui voudrait qu'on retourne à une forme de politique de la guerre froide où un pays est soit votre allié, soit votre adversaire. Et je trouve qu'en faisant cela, même si voilà, à court terme, les États-Unis n'ont pas réussi dans leur stratégie d'accommodement, ils préservent mieux l'avenir que d'autres partenaires.
Jean-Hervé Jézéquel, directeur du projet Sahel, pour l'International Crisis Group, invité de Christophe Boisbouvier aujourd'hui sur RFI. Entretien plus long à écouter dans 1 heure à 7h45 heure de Paris. Allez, on referme maintenant notre série de reportages en Afrique du Sud. 3e et dernier épisode ce matin. 30 ans après l'avènement de la démocratie dans le pays, 30 ans après les premières élections libres le 27 avril 1994, qui mèneront finalement Nelson Mandela au pouvoir et qui déboucheront sur la rédaction d'une constitution jugée progressiste à l'époque sur le continent. Un texte protégé par la Cour constitutionnelle, un monument important au centre de Johannesburg et dans le cœur de ses habitants. Reportage Romain Chanson.
Ces journées portes ouvertes à la Cour constitutionnelle. Un groupe scolaire venu de Soweto prend place sur les bancs de la Cour. Les adolescents s'amusent à imiter les juges. Leur professeur appelle au calme et interroge ses élèves. L'un d'eux, Camorello, connaît très bien le rôle de la Cour constitutionnelle. Il connaît même le nom de son président.
Si le gouvernement veut ajouter une loi à notre constitution, il doit passer par les juges comme Raymond Zondo. Ils ne doivent pas seulement écouter le gouvernement, mais ils doivent aussi regarder les intérêts des citoyens sud-africains.
Ses camarades l'applaudissent en claquant des doigts. Son professeur, Dalukolo, y voit un rapport particulier des Sud-Africains avec la politique.
Pour eux comme pour les Sud-Africains, la politique joue un rôle très important dans leur vie. Donc même de manière inconsciente, ils savent qui dit ça et qui fait quoi.
La cour a été construite sur le site d'une ancienne prison où ont été brièvement incarcérés Mahatma Gandhi et Nelson Mandela. Du pire peut naître le meilleur, souligne Lorraine, guide touristique.
La cour a été construite ici pour la rendre accessible et ouverte à tous. C'est un lieu de transparence pour montrer qu'il n'y a rien à cacher dans notre constitution.
La cour constitutionnelle a beaucoup fait parler d'elle quand elle a condamné l'ancien président Jacob Zuma à 15 mois de prison pour outrage à la justice en 2021. Ce jugement était un signe d'indépendance, rappelle Lessero, de la fondation Democracy Works.
Notre cour constitutionnelle peut être saisie pour des affaires qui contestent les décisions de l'exécutif, du président et de son gouvernement. Et elle peut juger en défaveur du président. C'est la preuve d'une constitution qui promeut l'état de droit, les droits de l'homme, qui tient les gens responsables de leurs actions et qui nous garantit des élections crédibles. C'est très important. Donc c'est un document dont on est très fier.
Les prochaines élections auront lieu le 29 mai et la Cour constitutionnelle a déjà été saisie pour statuer sur la validité de la candidature de Jacob Zuma. Romain Chanson, Johannesburg, RFI.
Une série sur les 30 ans de la démocratie sud-africaine, 3 épisodes, 3 reportages à retrouver, à partager bien sûr sur Internet. À 6h53 à Paris, le rendez-vous de l'économie africaine à présent, qui nous emmène ce matin à Madagascar, où la demande de cacao est telle que les planteurs du Nord-Ouest ont vu leur rémunération quadrupler. Le cacao rapporte cette année plus que la vanille, c'est dire. Pourtant, les exportateurs malgaches sont inquiets car les fèves de cacao ne peuvent pas quitter la grande île, la dernière tempête ayant en effet coupé les accès au port. Quand la logistique joue les troubles faits dans le cacao malgache, c'est notre dossier Afrique Éco du jour. Il est signé Claire Fage, qui revient de la conférence mondiale justement du cacao à Bruxelles.
Le kilo de fèves de cacao payait 7 à 8 dollars, plus cher qu'un kilo de gousses de vanille. Éric Flavien Gérard Ranaïvosou, producteur à Ambange, n'avait jamais connu un tel prix ni un tel engouement des acheteurs.
Entre 70 à 80% des acheteurs de cacao à Madagascar, ce sont des nouveaux venus. Ils n'étaient pas là il y a 2 ans passés. Comme il manque des fèves partout, ils sont venus à Madagascar pour tenter aussi leur chance. Et c'est ça qui fait flamber les prix. Tant mieux pour les petits producteurs. Les gens, ils entretiennent mieux leur plantation actuellement.
Mais les exportateurs malgaches comme Nayata Kétissia Théodule sont loin de se réjouir. Pas moyen depuis un mois d'acheminer les fèves jusqu'au port d'Antsiranan, encore appelé Diego, à cause des destructions du dernier cyclone.
On a 3 ponts coupés, une route inondée et c'est inaccessible. Et actuellement, nos produits sont stockés dans l'entrepôt, les contrats sont signés, mais il n'y a pas d'export.
Tant que les fèves ne quittent pas la grande île, l'exportatrice n'est pas payée et elle craint de manquer de capital pour régler la récolte aux producteurs.
On continue à acheter, on ne peut pas arrêter d'acheter là. C'est impossible, les producteurs vivent de jour en jour. Alors que nous ne pouvons pas non plus envoyer les produits disponibles en ce moment.
L'alternative du port de Nosibé est exclue. Les produits industriels et chimiques qu'il importe pourraient dénaturer le cacao malgache qui devrait au préalable prendre le bac avec un risque de contact avec l'eau de mer. Dernier recours, craint l'exportatrice, une longue route vers les ports d'autres régions malgaches.
Ce sera Ambange, Majinga ou Tamatav. Et ça va coûter très cher au niveau du transport. Nous ne pouvons pas demander à nos importateurs de faire un prix spécial pour les contrats qui sont déjà signés. Et là, ça va être à la charge de la société. Et l'insécurité aussi sur la route, c'est très inquiétant.
L'inquiétude est également liée au fait qu'il y a de plus en plus de vols de fèves, comme l'observe toute la filière malgache du cacao. Claire Fage, de retour de Bruxelles, RFI.
C'est vendredi aujourd'hui et comme tous les vendredis, on retrouve l'humeur de Charlotte Ntamak. Et ce matin, Charlotte, vous nous parlez d'un objet dont on ne saurait se passer si l'on tient à son image.
Eh oui, s'il est un objet important pour quiconque tient à son image, c'est bien le miroir. Le miroir est si important qu'il ne faut jamais se présenter en public sans s'être présenté en privé devant le miroir. Seul objet au monde capable de vous dire si vous êtes présentable ou pas. Miroir, miroir, suis-je la plus belle? Marco, aujourd'hui tu n'es pas belle des. Ton maquillage là. Le miroir attire le regard et quand vous croyez le regarder, c'est le miroir qui vous regarde. Et ce que le miroir voit, même sans mot dire, il vous le dit, car en plus de vous regarder, il vous parle aussi. Tu le traverses sans le regarder, tu entends une voix. Chacha, tu pars où comme ça? C'est ton miroir qui t'interpelle et ce qui fait de lui un objet magique, c'est que tu peux même entamer une conversation avec ton miroir. Je vais au rendez-vous que je t'ai dit là, non? Quoi? Tu pars au rendez-vous galant habillé comme si tu partais au deuil. Et regarde tes boucles. Dis donc, va me changer ça. Ton homme s'impatiente un jour de sortie. Ouais, la fille, si. Comment tu nous paies même souvent le temps comme ça, hein? Moi, je n'aime pas arriver en retard, hein? Comment lui dire à cet impatient impertinent que ce n'est pas de ta faute, mais celle de ton miroir qui ne t'a pas encore décidé de le rejoindre dans la voiture? Ne sait-il pas, lui qui te regarde du coin de l'œil, qu'un rétroviseur sert avant tout à s'assurer que le rouge ne déborde pas sur les commissures des lèvres? Chacun doit avoir un miroir et si vous croyez vous en passer, hein, on sait quand vous n'en avez pas. J'ai dit, hein, regardez celle qui me parle. Pardon, va d'abord te mirer avant de venir me parler. Il n'y a pas plus démeublé qu'une maison sans miroir. Et il n'y a pas plus vide qu'un sac à main sans un petit miroir. Faute de miroir, on peut s'offrir le luxe d'un miroir humain. Chérie, attends, je me retourne, tu me dis. La trace de mon collant se voit derrière. Madame est parfois aussi souvent le miroir de son homme. Tu vas où avec l'habit froissé, hein? Pardon, ne pars pas me souiller dehors. Tu as oublié ton miroir en pleine conversation. Au lieu de te regarder dans les yeux, ton interlocuteur regarde ta bouche. Tu penses que c'est ton beau sourire et tes dents blanches qu'il regarde. Un tour devant le miroir des toilettes, tu te rends compte que c'est plutôt une fibre de légumes intercalée entre tes deux dents qui captivait son attention. Pour votre bonne image, il faut savoir profiter de chaque miroir. Alors, faire les vitrines, ce n'est pas seulement regarder l'article derrière la vitre, mais aussi voir votre reflet sur la vitre, n'est-ce pas, mesdames? À vendredi.
À vendredi prochain, Charlotte Ntamack. Merci à Hugo Vallière qui était à la réalisation avec moi. Merci à Pierre Pinto qui était à la rédaction en chef. Restez avec nous, bien sûr, dans une minute. C'est RFI Matin qui débute avec Julien Coquel-Rohem.
8 milliards de voisins.
Laurence Garcia attend vos témoignages sur le thème d'aujourd'hui.
En entreprise, on est jugé vieux, de plus en plus jeune. Comment lutter contre l'âgisme, la discrimination basée sur l'âge? À quand une reconnaissance de l'expérience?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, vous m'en direz des nouvelles avec Jean-François Cadet.
C'est le premier projet en tant que leader de Laurent Barden et son groupe Tigre d'eau douce. Eden Beach Club ou la bande-son d'une journée couchée sur son transat au bord de la piscine. Une playlist ensoleillée qui signe le retour du saxophoniste et compositeur à ses premières amours jazz.
Vous m'en direz des nouvelles? Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU.
RFI.